Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est comme un mal de cœur dans un avion taxi. C'est comme un poudrier avec une mitrailleuse, jeté sur canapé. Dangereuse, c'est le four au bleu noir d'un appareil photo, au fond d'un urinoir dans les quartiers prolos, un bouillon de 11 heures et des ongles vernis, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est l'oiseau de malheur des élus de Paris, c'est comme une moto chargeant un bal masqué. Un torero déguisé en marié et son voile géant traînant dans l'eau glacée, c'est un prince charmant tout harégo pygmé, un orage de fleurs dans un bain de minuit, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. Pourri. Un tremblement de terre au fond de l'océan, un pot-au-feu grand-mère cuisiné en gants blancs, c'est comme un peu de poudre dans une veine bleue, comme un coup de foudre prêt à vider les lieux, c'est la nuit du chasseur, le démon de midi, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, chanteur gardé par des spahis, c'est un tapis de fleurs dans le mois de Marie, c'est une affaire d'honneur sur un dessus de lit, c'est un vieux dictateur incendié par la foule, c'est une histoire de cœur dans une bouteille saoule, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est une étoile en pleurs filant en plein midi.
À mariner dans ses yeux, tu perds ton sang. Tel Attila, tel Othello, tu te noircis. Dans quoi tu te mires? Dans quel étang? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. Tu l'auras toujours ta belle gueule, tu l'auras ta superbe. À défaut d'éloquence, tel Machiavel, tel la belle Gance, tel Guillaume Tell. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. Perds ton temps à te percer un jour. Devant l'obstacle, tu verras, on se révèle. Tel Perceval, tel Casanova, tel Harvey Keitel. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. Laisse venir, laisse venir, laisse venir. L'imprudence. Attila, tel Othello, tel Machiavel, tel Guillaume Tell. Laisse venir. À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. Laisse venir. Laisse venir. Laisse venir. Laisse le vent du soir décider. Laisse venir. Laisse venir. Laisse venir.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, nous allons parler de charge. Charge, j'ouvre le huis clos psychiatrique. Bonjour 13.
Bonjour.
Je ne sais pas comment commencer. Quand une amie m'a demandé, parce que je lui disais que je lisais ce livre, elle me demandait si c'était bien écrit, et je lui disais oui, c'est bien écrit. parce que, effectivement, bon, bah, c'est d'une plume alerte et assurée que tu fais ce témoignage.
Ça a beaucoup compté pour moi d'essayer d'écrire, selon mes critères à moi, un joli texte, un beau texte, parce que je trouve que ça fait partie aussi de mon confort à moi, quand j'écris, d'écrire les sales choses avec une jolie écriture, ça me fait du bien. Et je me dis aussi que ça doit se transmettre dans la lecture et que ça permet aussi de lire bon, des souvenirs pas folichons,
oui.
Mais sans forcément avoir l'impact dégueulasse qui va avec.
Alors, bon, j'ai dégagé quelques axes de ton récit. Par exemple, si on s'en tient au médoc, enfin au médicament, il y a différentes réflexions par rapport à ça. Par exemple, bricoler des bouts, ça c'est un titre de l'un de tes chapitres.
Oui.
À la pharmacie, je cite un extrait. À la pharmacie, quand je présente le papier, je n'aime pas ça non plus. J'ai un peu honte de mes traitements. Il y en a beaucoup. À chaque fois, lui écrit tout, mais moi, je ne prends pas tout. Seulement ce qui manque. Alors je dois préparer une annexe à son papier avec la vraie liste d'achats et je dis à la pharmacienne les lignes qui me manquent. Ce n'est pas facile à lire, son écriture est aussi le fait que souvent l'ordonnance a débordé et qu'il a fini en oblique par la droite. C'est fastidieux. Je dis merci quand c'est fini et je ressors avec un sac de boîtes de carton. Alors après, il y a cette histoire de montagne, il y a la montagne, c'est l'accumulation des boîtes de carton.
Oui. En fait, j'ai fait une collection des boîtes vides de médocs. Mmh. Bon, ça m'était jamais arrivé avant, hein, sur d'autres médocs que je prends pour d'autres raisons.
Oui.
Mais il y a un moment, je pense que dès la première année, je pense que je commence à mettre en place. Je garde les boîtes vides des médocs et j'ai pas trop. Décidé, mais ça s'est fait un peu comme ça. Et je me disais, faut que je garde ce que j'avale, ce que je prends. Je pense que j'avais du mal à réaliser parce que ça a été très fort, très vite, les ordonnances que j'ai eues. Et j'ai eu du mal à réaliser, je pense, l'ampleur des traitements qu'on me filait. Et garder les boîtes, visuellement, ça devait correspondre à avoir sous le nez un peu la quantité de chimie que j'ai. Et ça m'aidait à la matérialiser. Et puis il y a un moment où c'est tellement gros, mais vraiment, il y a une montagne physiquement, quoi, dans la pièce où je dors, dans ma chambre. J'ai cette montagne de boîtes. Et c'est pas du tout bon moral, en fait, d'avoir ça non. Sous les yeux. Je me dis, je la rentre dans l'armoire où je rentre. Il y a une penderie où je range mes vêtements. Je la mets en bas, mais à chaque fois que je rouvre, il y a des boîtes qui tombent. Et je me souviens les remettre, mais quasiment à chaque fois que j'ouvre pour prendre un vêtement, remettre les boîtes qui sont tombées pour refaire. Enfin, ce truc est super fastidieux. Et ça prend de la place, en fait, jusqu'à ce que je me dise, je vais collectionner les ordonnances. Et j'arrive à jeter cette collection un peu morbide de boîtes de médoc vides en me disant, je garde les ordonnances. Et là, c'est super parce que bon, déjà, ça prend pas de place. Donc, j'ai pas cette pollution visuelle sous les yeux. Et le fait, par contre, ça, je me souviens à ce moment, alors que j'ai beaucoup de médocs, là, je suis un peu niveau. Je suis un peu quand même plombé, quoi, à ce moment-là. Ouais. Mais je me souviens me dire, c'est bien, j'ai les médocs, ils sont signés par le médecin. Donc, c'est comme si j'ai la preuve de ce qu'il fait. Il y a ce truc dans ma tête déjà qui est présent.
D'accord. Alors, après, il y a. Notre extrait. Malheureusement, ce n'est pas si rare que tout le bricolage que je mets en place pour arriver à s'en sortir, en quelque sorte,
À prendre les médocs, à gober les médocs, je pense.
Voilà, oui. Ne suffisent pas. La main sur le rebord, je me tiens. J'ai peur de tomber. Il est midi, je n'arrive pas à les avaler. Oui, effectivement. Montée d'angoisse, ma main s'approche de ma bouche. Mais ça n'est pas ma main, ça n'est plus la mienne, c'est sa main à lui. Il fourre des cachets de force dans ma gorge. Il entre dans mon sang, il viole mes intestins. C'est lui qui a signé ces ordonnances qui me détruisent. Je n'en veux plus, il va me faire crever. J'ai recraché le cachet. Il a roulé sur le rebord avant de tomber sur le carrelage. Je respire, je prends mon temps. C'est très compliqué, je me concentre. Je passe en revue l'ordonnance, elle a changé. Je me rappelle ce qu'il m'a dit en me la donnant, un résumé de la ligne directrice pour que je me repère, arrêt du Prozac, introduction du Cymbalta, renforcement de l'Abilify. Si je raconte ce qui se passe, comment ce psychiatre force ma gorge, comment il me la crache dans le sang, sa camisole chimique, personne ne serait d'accord avec ces mots. Il serait invalidé tout de suite. Il se dirait peut-être que je souffre trop et que je cherche un coupable tellement je vais mal. La maladie serait mobilisée pour relativiser et pourtant je ne connais absolument personne dans tout mon entourage susceptible d'accepter de gober une ordonnance comme celle que je me farcis. Par moments, je prends conscience que je suis plutôt bien portante psychologiquement vu le viol intestinal quotidien que je subis. Ma nouvelle ordonnance, c'est d'Eroxate, 20 mg de comprimé, Cymbalta, 60 mg un comprimé, Abilify, un seul comprimé, toujours, mais pas le même dosage. De 10 mg, on passe à 15. J'ai encore pas mal de boîtes de 10 mg et ce médicament coûte dans les 100 euros la boîte. Je vais donc écluser ma boîte de 10 d'abord, en prenant un cachet et demi par jour. C'est bon, ils sont sécables. Je n'aime pas gaspiller les médocs à cause de la sécu et son trou du cul, je vais donc maniper mes cachetons d'Abilify. Je me concentre, je continue à passer en revue, ça n'est pas fini. J'ai aussi Akineton, un demi-comprimé, mais je peux prendre un demi en plus en si besoin. Loxapac, 25 mg deux par jour. Xanax, 0 mg 25, trois fois par jour. Avlocardil, un comprimé. Enfin, non, deux demi répartis en deux prises. Il y a trois types de médicaments. Les médocs qu'on peut prendre quand on veut dans la journée, tant que le moment reste le même d'un jour sur l'autre, et la dose prescrite est absorbée en une seule prise. Et il y a les médicaments qui ont une posologie horaire à respecter, comme le Xanax, qui se répartit tout au long de la journée. Et enfin, il y a les si besoins. Alors, qu'est-ce que c'est les six besoins?
Les six besoins, c'est la partie de l'ordonnance où on peut prendre à notre convenance, on va dire, les médocs. En particulier quand on sent qu'une crise peut venir, parce qu'en gros, c'est un peu ça. Moi, les six besoins que j'avais, c'était des gros anxios pour un peu assommer quand je sens que, voilà... Je suis très perturbée. Et la partie des six besoins, j'en garde vraiment un mauvais souvenir. Enfin, sur le moment, moi, je suivais tout. Hein. J'essaie de faire de mon mieux pour, on va dire, limiter mes problèmes. Donc, j'étais suiveuse de l'ordonnance, quoi. Oui. Et les six besoins, avec le recul, je me dis que c'est vraiment un truc un peu d'enfumage parce que c'est comme si on nous laisse une petite marge de manœuvre, tu vois. On a la liberté de se dire « Ah bah, j'autogère un peu ma santé, je vais prendre un si besoin. » Mais en fait, derrière, il y a déjà tout un paquet obligatoire, on va dire, avec une posologie précise au quotidien. Et c'est une espèce de micro-marge de liberté qui fait un peu l'illusion pour moi, les si besoins, qu'on peut être acteur un peu de ce qu'on prend, qu'on peut choisir aussi ce qu'on estime qui nous fait du bien ou qui ne va pas nous servir. Mais comme un leurre, parce qu'il y a tout le reste, en fait, qui fait partie de l'ordonnance qui est pas si besoin. Et donc avec le recul, je me dis les six besoins, c'est un peu l'arnaque. Et je me souviens en plus, moi par exemple, même si à l'époque j'étais vraiment je focusais pour les prendre, ces médocs, parce que pour moi c'était comme ça que je pouvais limiter les problèmes. Et ben les six besoins, mon objectif, je m'en souviens très bien, c'était de le moins possible d'y recourir, parce qu'il y avait quand même ce truc là de que ça fait pas du bien tous ces cachets. Donc si besoin, pour moi, c'était l'arnaque un peu. Mmh. Et en plus, c'était très fort parce que je me souviens dans un moment où, quand je sentais un peu des grosses crises d'angoisse monter, j'avais un cachet que je prenais. Je savais que j'avais à peu près une demi-heure. Si j'étais quelque part, par exemple, j'avais une demi-heure pour rentrer chez moi et m'effondrer dans un lit parce qu'en fait, ça pouvait me faire dormir, mais des heures et des heures, parfois des tours de cadran. Mmh. Donc, c'était aussi le côté vraiment un peu truc camisole chimique, tu vois, c'est concret, quoi.
Oui. Mmh. Et d'ailleurs, un autre endroit du livre, tu expliques être étonné de la durée, les durées pendant lesquelles tu étais capable de ne rien faire, en fait.
Oui. Ah oui, oui, ça c'est... Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve que j'ai un peu gardé quand même. Oui. Parce que moi, il y a ce truc de passer des heures collées au plafond, c'est-à-dire dans un lit, à regarder comme ça au plafond. C'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est quand même quelque chose que j'arrive à faire régulièrement. Et à l'époque, je me souviens, ça dure, mais le rapport au temps, il est quand même différent parce que je pense avec les traitements, ça change des choses en fait dans les perceptions. Et j'étais, ouais, ça, le temps comme ça, il peut s'écouler vraiment très longtemps et ne rien faire, vraiment ne rien faire du tout. Mais à l'époque, c'est ne rien faire en souffrant parce que je suis pas. Le moment où je souffre pas, moi, c'est le sommeil. C'est un peu mon refuge. Quand je dors, ça va. En plus, j'ai aucun souvenir de cauchemar ou de quoi que ce soit. Quand je dors, j'écrase, ça dure des heures. Donc il n'y a pas ce truc aussi de certaines personnes qui ont des sommeils agités ou du mal à s'endormir et tout. Moi, c'est pas ça. Donc, quand je dors, c'est bien. Et quand je suis comme ça, à ne rien faire, souvent, c'est pas agréable, en fait. C'est pas les trucs de méditation légers. On s'ancre dans le présent, là. Non, c'est un peu plus glauque.
Alors, j'avais aussi dégagé un deuxième axe. C'est où est exprimé le... enfin, une certaine vision du pouvoir médical.
Oui.
Alors, ça commence, par exemple, il faut que je retrouve. Oui, que tu arrives et il n'y a pas d'écoute. Ici, personne ne me croit. Il y a l'histoire du verrou de la fenêtre au début du livre aussi. Où...
Oui, puis il y a les vers.
Ouais, voilà. Alors, les vers, oui.
Ouais, ici, personne ne me croit, je pense que c'est dans les vers.
Oui, alors c'est... Oui.
Attends, je pense que je vais te le retrouver, ça.
C'est... Alors, page 8, hein, je crois. Alors, ah voilà. J'ai des vers au cul et personne ne me croit. Les toubibs sont des violents, à croire qu'il faudrait leur montrer mon anus pour être pris au sérieux. La paranoïa est leur prétexte. Une voisine de couloir trois chambres plus loin, dit qu'elle a un vers solitaire, alors il se raconte que par ricochet, je m'imagine contaminé. Mais non, j'ai bien attrapé des vers au cul. Pas un vers solitaire, juste des petits qui grattent dès qu'on trouve fréquemment dans les colonies de vacances et dans certaines spécialités des services hospitaliers, dont la psychiatrie. Mais les employés du service ne sont pas au courant. J'ai beau leur dire, pas d'écoute. Il me faudra attendre d'être sorti de l'hôpital pour aller en pharmacie acheter le traitement disponible sans ordonnance, du courant, deux cachetons à gober en une seule fois, très efficace. En attendant, ici, personne ne me croit et, pendant que les médecins se racontent sûrement qu'on a une vague de parano dans le service, mon cul me gratte. Le cul qui gratte de trop, ça empêche de dormir. Moins d'heures de sommeil, fatalement, c'est plus d'heures, les yeux fixés sur le verrou des fenêtres.
Ouais. Bah ça, c'est un peu le comble. Tu te dis qu'eux, ils ont quand même accès à toute une pharmacie. C'est un peu les pros des traitements. Donc que bah moi je me plaigne de quelque chose qui est quand même très facile à soigner, qui est courant, qui coûte pas grand chose et qui enlève quand même une grosse source d'inconfort pas facile à supporter et que je dois rester plusieurs semaines quand même, parce que là je reste plusieurs semaines avec ce problème d'avoir les vers et sans écoute, sans traitement et jusqu'à ma sortie. Et je sais que cette moi je le rattache vachement à le manque d'écoute là sur un truc comme ça. Je le rattache vraiment au fait qu'il y a une personne dans une chambre à côté qui parle beaucoup du vers solitaire, parce qu'elle en parle au repas et tout. Donc, que son vers solitaire lui mange les intestins et tout. Mais un vers solitaire, c'est autre chose en termes d'infection intestinale. Donc, eux, ils se disent que en entendant ça, quoi, je me raconte que je me suis fait un peu comme si, oh là là, je me suis fait contaminer d'un truc et tout, alors que ça n'a rien à voir.
Ouais. Alors, il y a aussi l'épreuve de la balance. Donc là aussi, c'est presque un combat, quoi. C'est-à-dire que tu dois résister à...
Ouais, la balance, c'est presque un rituel d'humiliation pour moi.
Oui. Alors,
Tu veux que je le lise?
Oui, je veux bien.
Il n'y a pas que les verrous des fenêtres que je n'apprécie pas. L'épreuve de la balance fait office de véritable rituel d'humiliation. Il est bien rodé, orchestré collectivement, on s'y soumet. Tous les samedis matins, devant la porte de la salle à manger, nous montons sur la balance et nous devons noter notre poids sur un cahier commun. Pour respecter l'anonymat, il nous demande d'inscrire notre numéro de lit plutôt que notre nom. Dans notre aile de couloir, il y a une quinzaine de chambres. Si je me demande combien pèse tel collègue d'hospitalisation, il me suffit de lire au cahier que le 14 fait 66 kilos. On se connaît les numéros de lit, ils se suivent et sont écrits sur les portes. L'anonymat du poids, pas un instant. Par contre, ce petit jeu nous fait le rappel hebdomadaire qu'on nous prend pour des cons. En ce qui me concerne, l'exercice siffle par ailleurs une partition bien spécifique. La balance joue le son du malaise. Avec une aiguille qui grimpe en rond jusqu'à 100, elle ne sait rien dire de mon cas. Je suis arrivée dans cette hospitalisation avec un 140. Quand je suis dans la queue qui mène au responsable de la pesée, je sais parfaitement qu'il vérifie que chacun se pèse et se note avant d'entrer dans la pièce. Je sais aussi que s'il y a refus, il le signalera à l'infirmière du poste qui viendra prendre le relais. Enfin, je sais que si vraiment la résistance est trop forte, l'incident sera noté dans leur cahier d'information afin d'être abordé avec le médecin, voire reporté dans mon dossier s'il décide d'adapter le traitement. Je sais parfaitement comment s'organise toute la pyramide du pouvoir. Tu veux que je continue avec le surveillant et tout ?
Oui.
Mon tour arrive. Je dois dire que je n'utilise pas cette balance. Le surveillant insiste, le ton mielleux et ferme du gestionnaire serein. Il m'invite fortement à essayer de bien suivre le protocole. Nos paroles sont douteuses, nous avons sans cesse la charge de devoir percer la suspicion. C'est injuste et épuisant. Je voudrais hurler sur lui que je pèse lourd, que je suis hors catégorie de 40 kilos, que je vais exploser sa sale balance de tordu si je monte dessus, et que je vais lui faire bouffer sa bite et son rituel de merde s'il insiste encore une fois. Bien entendu, je ne le dis pas. Je ne sais être en colère qu'à l'intérieur. Nous sommes obligés d'apprendre à le faire. J'ai la pyramide du pouvoir ancrée dans le crâne et j'ai peur des représailles chimiques s'il rapporte de l'agressivité de ma part. Prudente, je prends sur moi. J'adopte une petite voix honteuse pour lui redire que je ne peux pas monter sur la balance, que j'ai peur de la casser. Je mentionne les fameux 140 kilos en baissant la tête. Je dis que j'ai un peu honte de mon poids. J'avance lentement vers la salle à manger en me concentrant sur le fait de m'excuser corporellement d'exister. Je gagne la clôture de la discussion comme ça. En pays psychiatrique, donner l'apparence de la soumission est un argument très solide. Comme les équipes ont des jours de présence qui tournent et pas assez de temps pour s'informer de ces choses-là, je suis amenée à jouer cette partition toutes les semaines. Je me revois souvent devant cette balance en plastique beige, la queue à faire, l'arrivée devant le surveillant, le corps gros planté à l'objet. Le souvenir est précis, j'entends encore l'instrument de mesure marteler ses petites notes d'humiliation.
Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, le fait que tu doives... montrer de la soumission pour pouvoir te sortir des situations difficiles.
Oui, c'est quelque chose que j'ai pas mal. En plus, c'est un truc que moi j'ai vachement pathologisé parce que toutes ces situations où tu peux pas exprimer la réalité de mais c'est quoi ce bordel en fait. Mmh. Tu peux pas le dire parce qu'il y a toujours la peur que si t'es agressif après ça a des impacts ou que ça va être mal reçu, mal entendu. Donc il y a énormément de trucs que tu retiens, que ce soit dans les propos ou même dans les émotions. C'est normal d'être en colère dans cette situation, mais le fait de tout garder dedans, ça fait souvent des espèces de réactions ou des pensées que j'ai et qui sortent pas du tout. Et donc, et même il y a, quand je suis par exemple en consultation, je me souviens avoir la discussion dans ma tête et la discussion que je dis vraiment au médecin. Et il y a un gouffre entre les deux. Et moi, pendant ces années, je me dis que c'est pathologique en fait. Je me dis que ça fait partie de ma maladie, que c'est en gros un problème de santé mentale. Et j'ai pas du tout l'analyse ou le recul pour me dire bah non, c'est jusque là, ce que tu penses vaut mieux pas le dire parce que ça va te créer des problèmes. Oui. Donc c'est une bonne façon de faire dans la situation, mais moi je le constate ce truc où j'ai la discussion dans ma tête ou la pensée qui n'a rien à voir avec ce que je dis, et je pense que c'est un truc de, tu vois, un trouble psy, alors que non.
Alors il y a une autre chose que tu évoques. Alors, c'est toujours bien imagé avec souvent, dans ton livre, il y a des expressions métaphoriques. Par exemple, le pays psychiatrique, oui. Déjà, c'est... Mais bon, on a aussi parlé de la montagne, mais il y a aussi, parmi ces images, le bateau mouche.
Oui.
C'est-à-dire la tournée médicale des psychiatrisés par les psychiatrisants.
Alors, qu'est-ce le bateau mouche.
Est-ce que tu peux nous expliquer?
Ouais.
Qu'est-ce que...
Eh ben, moi, je... Tu vois, quand on voit les bateaux mouches qui passent comme ça avec les touristes sur les quais, et si toi, c'était sur la rive et tout, que tu vois défiler comme ça, t'es un peu le... T'es un peu le, ouais, comme au zoo, tu vois. Mmh. Et dans les hospitalisations, on a les tournées médicales, bah, comme dans les autres services qui passent le matin pour faire un check. Et il y a toujours ce truc, ils arrivent en groupe. La plupart du temps, on sait qui est le psychiatre ou la psychiatre qui nous suit parce qu'on le voit un peu régulièrement. En plus, parce que les psychiatres, ils se disent, je suis docteur machin et tout. Mmh. Les autres, c'est des anonymes, ils se présentent jamais, on sait pas qu'est-ce qu'ils font. Donc il y a toute cette personne qui arrive dans la chambre. En plus, moi, comme j'ai pas mal de cachets, puis souvent quand même hyper sommeil et tout, souvent, ben, en fait, ça te réveille. Donc tu te retrouves d'un coup, t'es en pige dans ton lit, et là, c'est le moment de la tournée du bateau mouche, et il faut parler ou dire ce qu'on ressent, ou les problèmes qu'on a, ou faire le point médical. Et ce truc ne marche pas du tout, parce qu'en fait, c'est stressant. C'est du stress à la fois, c'est un truc que t'espères, parce que comme il n'y a pas beaucoup, enfin en fait c'est pas souvent, et que la plupart du temps c'est très rapide, c'est genre 5 minutes, mais que toi tu passes des jours entiers à l'hôpital, t'attends aussi que ça avance un peu, quoi, enfin, dans ta prise en charge ou dans ton truc, donc t'attends aussi le moment où quelqu'un s'intéresse à toi. Mmh. Et en fait c'est aussi ce truc de... À la fois de voir l'équipe qui vient, là, ça fait un peu bouger. Et à la fois, c'est des conditions où, enfin, ça... Je pense que ça viendrait à l'idée de personne d'autre, ailleurs qu'à l'hosto, à l'HP, de se dire, bon, bah, d'un coup, hop, on arrive en groupe, on se présente pas, on dit, bon, comment tu te sens? En plus, sur des trucs un peu intimes, éventuellement des choses dures à dire, quoi, l'état d'angoisse ou les pensées parano, je ne sais quoi. Bon, c'est pas non plus des sujets qu'on aborde facilement n'importe comment. Donc là, c'est, je trouve, des conditions dégueulasses d'expression où on est censé baser le soin là-dessus, alors que c'est sûr que déjà, là, comment ça se passe, bon, c'est déjà pété d'avance, en fait.
Il y a aussi le chapitre sourcils sur viol. Mmh. Alors, bon, c'est difficile de choisir un extrait parce que c'est quasiment le chapitre entier qui évoque ce pouvoir médical oppressant. Alors voilà, ce blanc vous a été offert par Radio Libertaire.
Oui, tu voudrais le couper, c'est ça? Tu voudrais lire un extrait, mais tu sais pas alors, lequel.
Ah oui, ah non, ça c'est... Oui, alors, ça c'est sur le... Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, d'accord. Alors, c'est... non, c'est Perce-tête. Alors, parce que sourcils sur viol, est-ce que tu pourrais un peu...
dire de quoi il s'agit.
Voilà, dire de quoi il s'agit. Parce que
pour moi, c'est, tu vois, ça c'est vraiment le huis clos de la consultation. Là, c'est pas à l'hôpital.
Oui.
C'est ma psychiatre de ville, comme on dit. Donc, quelqu'un qui me voit très régulièrement en ville.
Les sourcils sont les siens.
Les sourcils sont les siens, d'accord. Ouais. Et ça, pour moi, c'est le huis clos de la consultation. On est toujours en duo, là, où on a quand même quelqu'un qui, finalement, sur des sujets graves, peut être la seule personne à qui on en parle. Donc, il y a aussi ce pouvoir-là de l'autre, qu'en fonction de comment il accueille ou pas, comment il comprend ou pas ce qu'on raconte, ça peut changer énormément. Et moi, à l'époque, j'amène... Bon, déjà, je suis à un moment de mon suivi thérapeutique, on va dire, où la plupart du temps, on suit un peu comme ça, comment ça va vite fait en superficialité. Et quand je me dis j'ai envie d'amener quelque chose qui est plus dur... qu'il faut bien que j'en parle quelque part et tout, je me prépare. Donc je fais même des répètes chez moi de ce que je vais dire en consulte, tellement j'ai la pression, hein, c'est fou. On dirait que je répète le rôle. Et là, je veux parler. Donc à ce moment-là, j'ai de l'addiction. Je fais du sexe compulsif, j'ai beaucoup de rencontres. Et j'ai vécu un viol, en fait, dans une de ces rencontres sexuelles. Et je sais pas... encore que c'est un viol, mais je vois que c'est, je l'ai mal vécu, que c'est différent. Je suis un peu à chaud du traumatisme et je sais que c'est pas comme d'habitude, c'est pas, j'étais un petit peu déçue, etc., dans un rapport sexuel. Et j'arrive, je prépare, je me dis, il faut que j'en parle. Donc j'arrive en consulte, j'amène ce sujet, bah, grave, qui en plus a des conséquences. Un viol, ça a des conséquences sur la santé mentale gravissimes. Donc, normalement, on est au bon endroit pour amener ça. Et je l'amène et je fais beaucoup de... J'ai du mal à en parler, je m'excuse vachement. Et je me souviens dans la consultation que je dis que j'ai l'impression de m'être auto-violée. Je dis ça parce qu'en fait, j'arrive pas à identifier encore que c'est un viol. Je dis auto-violée. Bon, déjà, elle, ce mot, bon, hop, le sourcil qui monte. Et puis, elle va rien dire, elle va pas réagir du tout. Et après, je me choque un peu d'avoir utilisé ce mot. Puis après, je dis, oh non, ça devait être autre chose. Enfin bref, j'enterre le sujet. Elle dit rien, elle continue à gratter sur ses feuilles. Et elle me reparlera jamais de ça, de la gravité de ce que j'ai déposé, de aussi cette organisation des rapports sexuels où je m'expose, bah, à ce type de violence et où, bah, il faut en parler parce que ça, et ce truc-là, ça va aussi me faire une espèce de double couche parce que moi, il y a le viol que je viens de vivre où je suis à chaud et la première personne à qui j'arrive à en parler qui referme en fait complètement le sujet. Et c'est que des années plus tard que j'ai de la mémoire traumatique qui remonte en fait et que je me rends compte que c'était un viol et que j'en avais parlé, qu'à ce moment-là, la psychiatre a une responsabilité énorme en termes de dégâts psychologiques sur moi parce qu'elle vient faire une deuxième violence sur ce sujet en fait.
Alors peut-être qu'on peut mettre un peu de son.
Oui.
Si tu veux.
Aura.
Oui.
C'est un morceau de rap que j'ai écrit.
Par milliers, très loin des lieux de fête, contrat social résilié dans les HP, parquet les bêtes, bouche sèche, dissociée, doigts qui tremblent, morale d'assiette, laisser s'empiler leurs dossiers dans les tranchées de toutes nos têtes, tomber les cachets dans le gosier, déguster en continu, conso qui dort sans rassasier, cicatrice sur torse nu, placer les psychiatres au brasier, balayer l'âtre de leur arrière-goût, tenir nos trous, s'extasier jusqu'au tréfonds de nos égouts. Thank you. en camisole, que les nuisibles boivent le bouillon, qu'ils nous isolent, qu'ils nous volent, qu'ils mettent nos rats au courbouillon. J'suis désolée, ça va sans dire qu'il soit trop tard pour disserter. Si les rats ont quitté le navire, c'est qu'il aurait fallu le déserter. On arrive par milliers, radars reliés. On dévale par milliers, aux dérivés c'est familier. On arrive par milliers, radars reliés. On dévale par milliers, aux dérivés. Si j'ai de la grâce et de l'aura, c'est grâce aux rats. Si j'ai de l'adresse et de l'odorat, c'est grâce aux rats. Si j'ai de l'audace et de la graisse, c'est grâce aux rats. Si tu m'oppresses, si tu m'agresses, ça se saura. Appréciez toute la famille, montre les voies inusitées. Dans les brisures de vos bastilles, on fait mesure de salubrité. Les étiquettes loin des casiers, on s'organise en porte ouverte. Solidaire comme les bousiers dans les boulettes, braillez l'alerte. J'suis désolée, ça va sans dire. Si les rats ont quitté le navire. On arrive par milliers, radars reliés. On dévale par milliers, aux dérivés c'est familier. On arrive par milliers, radars reliés. On dévale par milliers, aux dérivés. Si j'ai de la grâce et de l'aura, c'est grâce aux rats. Si j'ai de l'adresse et de l'odorat, c'est grâce aux rats. Si j'ai de l'audace et de la graisse, c'est grâce aux rats. Si tu m'oppresses, si tu m'agresses, ça se saura, on arrive par milliers. On arrive par milliers. On arrive par milliers.
Et voilà, c'est
super.
On est toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec aujourd'hui Charge 13, auteur du livre Charge. Alors, alors là, sur la prétendue beauté des tragédies, la prétendue beauté des tragédies m'énerve. Je suis insupporté par les dilemmes angoissants qu'on romance tels des ballades botaniques, et quand je pense aux auteurs psychiatrisés qu'ils glorifient, ça me donne envie de tuer. À l'hôpital Sainte-Anne, célèbre vitrine parisienne du pays psychiatrique, sur un mur, ils ont écrit les noms d'auteurs très connus qui ont eu pignon sur rue littéraire, souvent qu'après leur mort, et qui ont été hospitalisés dedans ces mêmes murs. Ça me débecte, ce dégoût, ça bouillonne dans ma gorge, c'est plus fort que moi, c'est peut-être la même rage que d'autres sentent lorsque la multinationale vole un énième morceau de vivant pour en faire son marketing écolo, lorsque le blanc dominant s'approprie un morceau supplémentaire de culture noire, ou lorsque l'homme hétéro bien en vogue vient se façonner un rôle séduisant dans la lutte féministe. Cet hommage me rend malade, il me donne envie de mettre des bombes sur tous les murs d'hôpitaux psychiatriques. Alors, c'est vrai que nous, on a souvent eu cette critique dans notre émission de cette espèce d'éloge de la folie des grands fous de l'histoire, etc. Je rejoins vraiment cette pensée de la prétendue beauté des tragédies.
Bah, c'est aussi le décalage de... Tu vois, parce que dans le... Moi, par exemple, tu vois, même c'est un truc encore aujourd'hui, quand... je suis vraiment super contente de l'avoir écrit, ce livre, et je suis contente qu'en plus qu'il ait été édité. Après, il y a une promo, tout ça, tu vois, il y a un côté super... Enfin, pour la partie d'auteur, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me fait plaisir. Mais il ne faut pas oublier la merde que j'ai vécue avant. Et il y a ce truc aussi, parfois, tu t'entends de... Comme si tu as transformé ta souffrance, que grâce, entre guillemets, à le vécu qu'il y a, bah, du coup, il y a un beau livre derrière ou ce truc-là. Et ça, c'est un peu dur à entendre parce que moi, j'échange 10 000 fois. La question ne se pose même pas de ne pas avoir vécu ces violences psychiatriques et ce parcours difficile. Et puis de ne pas avoir, écrit ce bouquin. Il n'y a pas photo, quoi. C'est plié, le choix est fait 1 000 fois. Pour moi. Donc je me dis, après, parfois c'est avec le recul, quand on a la partie plus littéraire, l'écriture et tout, c'est différent que les épreuves que tu traverses au quotidien.
Ouais, et puis c'est là aussi une vision, en fait, du pouvoir psychiatrique d'aligner un peu comme des curiosités des personnages, des personnes qui ont été entre leurs mains.
Oui.
Et qu'il... c'est ça, c'est un peu comme c'est un peu comme une exploitation de la vie des personnes, quoi.
Oui. Et le truc un peu, je ne sais pas si tu as déjà entendu, tu sais, moi, ça me fait penser dans l'artistique que parfois, tu as des styles un peu visuels qui photographient des jeunes femmes qui ont il y a eu à un moment toute une mode où en fait c'était des contextes de shooting où des femmes elles avaient été agressées ou mises sous pression ou violées, c'est des plus jeunes avec des photographes plus âgés, etc. Ce truc là où à un moment il y a esthétiquement une mise en avant de femmes qui ont de filles ou des regards perdus, de trauma en fait, de pas bien, et puis on va s'en faire un truc genre le regard évanescent et tout. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose un peu là-dessus sur l'écriture, on va dire un peu des fous, tu vois, où il y a un genre d'esthétique et tout, mais de gens qui sont en souffrance psychique très fort, et il y a ce truc aussi de pouvoir en faire un truc esthétique, alors que sous les yeux, il y a pas mal d'auteurs, on se dit « Ah, génie littéraire et tout », mais c'est avant tout quelqu'un qui est en grande souffrance et c'est écrit noir sur blanc. Mmh. Et de se dire de déconnecter de la souffrance de dedans à, on va dire, à la partie artistique, quoi, c'est aussi un truc un peu de société, quoi, qu'on fait qui n'est pas neutre, quoi.
Alors, apprendre à vivre avec, comme ils disent. Je déteste l'entendre. Vivre avec quoi exactement? Le grand bureau nous sépare, et heureusement tellement il est en train de m'énerver. Le grand bureau qui nous sépare. Quelle que soit sa taille, il est toujours grand, ce bureau. Je l'entends m'expliquer que je dois apprendre à vivre avec, comme une personne diabétique, que je dois l'appréhender comme je le ferais pour n'importe quelle maladie, et qu'il est douloureux de perdre mon énergie à me poser des questions de ce type, car c'est important de rester concentré sur les consignes qui sont des pistes d'amélioration. Là, on est dans le contexte du diagnostic.
Oui, et de cette logique d'appréhender... Tu vois, les infos médicales qu'on a avec les troubles psy qu'on vit et tout, en se disant, faut en vivre avec. Bon, déjà, ça veut dire aussi tout le paquet nous repose dessus, à nous, quoi, en tant qu'individu tout seul. Et comme si peut-être, on combat contre la maladie, donc on combat contre nous-mêmes, du coup, il faut s'apaiser, vivre avec, accepter. Un peu cette logique-là, qui peut avoir du sens dans d'autres... Dans d'autres choses où, voilà, il y a plein d'endroits de sa vie où on peut avoir besoin de regarder en face certaines choses, mais qui collent pas du tout, je trouve, avec le diagnostic, le sujet du diagnostic et des troubles psychiatriques, parce que c'est que des outils médicaux qui leur servent quand même essentiellement entre eux pour les prescriptions de médoc. Et donc, nous, c'est vraiment un effort inutile d'apprendre à vivre avec leur référence à eux d'explication, quoi.
Alors, pendant un long moment, tu as eu un traitement assez fort.
Oui, pendant 10 ans.
Pendant 10 ans.
Oui.
Et un beau jour, on vient te t'expliquer que, bon, on commence à te donner un nom à ce que tu as, puis à te faire baisser le traitement, et puis commencer presque même un sevrage.
Oui, et ça, oui. C'est même pas... Enfin, si tu veux, donc moi, c'est pas qu'on me diagnostique. Donc à ce moment-là, l'équipe médicale se dit que je suis bipolaire de type 3. Je m'en souviens bien, c'est la première fois qu'on me donne mon diagnostic. Ça, avant, j'en avais d'autres, mais tu sais, ils sont passés dans des courriers d'adresse entre médecins. Oui. Donc moi, j'ai déjà vu d'autres mots médicaux, diagnostics. Mais comme celui-là, c'est la première fois qu'il arrive et puis que l'équipe se dit « Ah bah non, la patiente a été mal... enfin voilà, qu'on peut faire mieux. » Bon bref, bipolaire de type 3. En plus, les histoires de type très compliquées. Visiblement, ils ne sont pas tous d'accord sur combien de types. Bon, j'ai tout un discours qui m'arrive avec un peu le truc éducation thérapeutique, patient et compagnie. Et ils veulent faire une fenêtre thérapeutique. C'est quand ils enlèvent tous les médocs, ils font un sevrage, pour remettre après mieux. Parce que comme là, en gros, ils se disent, on a compris son trouble, il faut la médiquer autrement. Bah, ils enlèvent tout. Ils sont censés attendre 2-3 semaines pour voir un peu les symptômes propres, on va dire, de la personne, sans médoc. Ce qui veut bien dire, d'ailleurs, quand ils font la fenêtre thérapeutique, ça veut dire aussi qu'ils savent qu'il y a tout un paquet de symptômes qu'on a à cause des médicaments, puisque sinon, ils ne feraient pas ces trucs-là, en fait. Donc, ça, c'est la logique. Ils vont me faire un arrêt des médocs très temporaire. Et moi, je suis à fond... Enfin, cette logique me va. À l'époque, je me dis, ah bah bien, si j'ai un diagnostic un peu... qu'on m'explique un peu plus. Moi, à l'époque, j'étais plutôt contente d'avoir, pour une fois, de l'info transmise en direct, que je n'ai pas à aller regarder à droite et gauche ailleurs. Et c'est l'été, il y a beaucoup de surpopulation dans les hostos. Moi, du coup, je sors sans médoc dans la fenêtre thérapeutique, parce qu'ils font le sevrage. J'ai plus de médoc et je suis censée revenir dès que je ressens, comme je suis bipolaire de type 3, dès que je ressens une phase haute ou basse, maniaque ou dépressive. Et comme je suis sans traitement, là, a priori, ça va revenir pleine balle. Donc, en urgence, hop, hosto, et ils me foutent l'autre traitement. Et en fait, je sors, les semaines passent et je commence à aller pas bien, mais pas avec, tu vois, les descriptions, parce qu'ils m'ont fait tout le truc clinique là, de commencer les phases maniaques, nanani. Donc moi, j'ai ça en tête et je commence à aller pas bien, mais ça ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. Donc ça me fait en fait, mais c'est vraiment un coup de cul, hein, parce que c'est pas du tout décidé que je reste sans médoc. Et moi, à l'époque, je ne pense même pas que c'est possible de vivre sans médoc. C'est pas une option dans ma tête, en fait. Et là, je traîne en fait, parce que je suis basculée de service en service, je traîne à réavoir, on va dire, un psychiatre attitré qui me file une ordonnance. Donc, ça me fait durer des semaines sans médoc. Et c'est un peu grâce à cet aléa de parcours que finalement, au bout d'un moment, je décide de me passer des psychiatres et des médocs. Et c'est, à cette époque-là, c'est même pas décidé... avec une analyse fine de bon, ça a pas marché, j'arrête. C'est parce que là, je craque en fait. Je suis super en colère. Il y a eu un tel bazar là. Ils m'ont dit tellement des choses qui se sont contredites sur les 6 derniers mois que j'en peux plus des psychiatres. Donc j'ai un peu la haine des psychiatres. Et c'est et sans médoc aussi, je commence à ressentir beaucoup plus parce qu'avant ça a éteint beaucoup. Donc là, moi, je récupère un peu. Toi, des pensées, des grosses émotions. Et comme je suis dans le rejet des psychiatres, bah, en fait, je traîne. Et c'est là où je vais pouvoir, on va dire, continuer mon sevrage le temps qu'il faut pour finalement me dire je décide de rester loin d'eux. Et d'ailleurs, dans cette période, tu vois, j'ai écouté Radio Libertaire, l'entonnoir, là. Parce que à ce moment-là, je me disais, bon, faut... Enfin, le contenu médical, j'en peux plus. Je suis un peu rejet d'un bloc. Et je me souviens, à écouter l'émission, c'est super nouveau pour moi, tu vois, parce que l'information que vous partagez, tout ça, ça n'a rien à voir avec, bien sûr, ce qui est accessible dans le grand public, tu vois, quand tu ne vas pas chercher des sources alternatives. Et je me souviens écouter l'émission et me dire... Enfin, en fait, penser et tout, avec, tu vois, avec vous qui parlez, tout me dire « Ah, bah, je suis d'accord, je suis pas d'accord. » Et franchement, c'est un très bon souvenir. C'est la première fois que j'ai mon avis, tu vois, que je me dis « J'ai un avis, en fait. » En vous écoutant, en discutant fictivement, tu vois. Oui. Mais cette émission, ça m'a donné tu vois, ce moment précieux d'avoir un avis et de me dire « Ah, je suis d'accord, je suis pas d'accord. » Et c'est la première fois que sur la psychiatrie, j'ai mon avis. Donc, c'est pour ça que je suis bien contente d'être là aujourd'hui.
D'accord. Tu veux dire que tu n'étais pas toujours d'accord avec les
non, pas
ce qui
toujours.
Était dit dans l'émission?
Non, mais non, tu mais... vois que je m'autorisais à penser par mais moi-même
non,
et
chouette,
que c'était la première fois de tout mon parcours.
Ouais, c'est cool.
Merci. Hein.
Bon. En fait, c'est chaque moment de ce livre est toujours riche, quoi. En fait, il n'y a pas de. On est tenu toute la durée de la lecture. Et c'est un livre révolté. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce qu'on peut éventuellement... Voilà, je vais lire encore un extrait. Oui, alors sur ce psychiatre, justement, ce rejet qu'on peut avoir du psychiatre, c'est l'asymétrie de pouvoir. En question. Pèse des tonnes. Un psychiatre a le pouvoir de t'écrire des lettres d'injonction, et ce même si tu ne le connais que depuis 10 minutes. On appelle ça les ordonnances. Un psychiatre a le pouvoir de donner un avis suffisamment alarmiste sur tes comportements pour qu'un représentant de l'État t'enferme. On appelle ça une hospitalisation sans consentement. Un psychiatre a le pouvoir de décréter que dans certaines situations, il est nécessaire de te ficeler au lit. On appelle ça la contention. Un psychiatre a le pouvoir d'estimer que pour apaiser tes symptômes, il est souhaitable de t'administrer du courant électrique dans le cerveau. On appelle ça la sismothérapie. Un psychiatre a le pouvoir d'écrire des choses sur toi suffisamment sérieuses pour qu'un juge décide que tu n'es pas apte à gérer tes dépenses, tes revenus, tes allocs, comme n'importe quel majeur. On appelle ça la curatelle. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Toi, en face, tu es seul. Et systématiquement, puisque tout se dit et se décide à huis clos, tu n'as absolument aucun contre-pouvoir pour te défendre. Alors ce qu'il te reste quand tu n'es pas d'accord, et ça arrive souvent, c'est le pouvoir de bien fermer ta gueule pour limiter la violence de ce processus de destruction massif. Dans ces situations... l'instinct de survie s'active tout seul, pas besoin de tortiller du cul longtemps, ça s'apprend vite. Mais personne ne prévient. J'aurais voulu qu'on me le dise, j'aurais voulu être prévenu, j'aurais vraiment voulu qu'on me le dise, qu'à mon oreille, tout au début, on me confie. Écoute-moi, tu vas investir inconsciemment ton rôle de patiente de toutes tes forces pour régler ton discours au diapason de ce qu'on attendra de toi. Tu verras, tu sauras le faire rapidement. Tu raboteras ce qui est tien et que le cadre d'analyse du corps médical ne sait pas appréhender, car tout ce qui sort du cadre pourrait servir à justifier les violences potentielles que tu sentiras à chaque instant comme une perceuse pendue au-dessus de ta tête. Tu devras couper dans ce qui est tien, car tout ce qui sort du cadre forme le terreau sur lequel on justifiera le traitement dont tu bénéficies. Tu amputeras dans ce qui est tien par panique, car tout à fait logiquement, tu seras pétri de peur à cause du concept du soin sans consentement. Pour survivre, tout à fait instinctivement, tu apprendras à verrouiller à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, ça se fera tout seul. Celle qui entre par la porte de la psychiatrie directement par là où les violences sont les plus fortes, le font d'un coup. Si tu entres par un endroit où les violences sont plus insidieuses, tu le feras progressivement. Mais dans tous les cas, au cours de ton parcours, tu iras de plus en plus profondément entailler des bouts de toi pour survivre. C'est comme ça que ça va se passer, car c'est aussi ça la psychiatrie. C'est l'organisation générale qui produit ça. Ne culpabilise pas. La plupart du temps, tu ne pourras pas soigner quoi que ce soit dans ce cadre. Pas dans ce cadre-là, non. mais tu ne seras jamais uniquement une personne psychiatrisée. Garde bien en tête que quoi que tu portes en toi, tu vas t'en sortir, grandir et survivre. Voilà, donc c'est ce dont tu aurais voulu être prévenu avant de traverser ces épreuves.
Moi, j'ai l'impression, oui, d'avoir... tu vois, ce chapitre-là, c'est un peu comme une transmission de ce qu'aurait aidé à supporter toute la traversée, et puis ce qui m'aurait aussi enlevé toute la partie où j'ai cru que c'est moi aussi qui était j'ai un manque de confiance dans ma tête, dans mes pensées, qui a grandi aussi du manque d'informations sur ce que c'est la psychiatrie et de comment ça va se passer et de toutes ces violences qu'on peut croiser un peu à tout moment. Et du coup, j'ai l'impression que ça m'aurait au moins... Ça aurait pas enlevé les épreuves, mais ça aurait enlevé que déjà je perde confiance en moi, dans mes réflexions, dans ce que je ressens, dans ce que je vois, mes perceptions, tout ça, tu vois, c'est...
Moins de culpabilisation, peut-être.
Bah, même moi, c'est un truc complètement erroné en plus. Ça amène à penser des choses qui sont complètement erronées de soi ou à questionner des perceptions qu'on a tout à fait justes et qui deviennent problématiques alors que non. Donc ça crée énormément de confusion. Je pense même physique, mentale bien sûr, mais physique aussi. Il y a des rapports au corps, je pense, qui sont vraiment très très abîmés. Enfin, c'est mon cas, mais je pense que c'est le cas très souvent dans ces parcours aussi. Parce que les perceptions, ce qu'on voit presque, il faut se dire que ah bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. On remet tout en question, même ce à quoi on assiste, ou même ce qu'on nous fait à nous. Et après, il faut mettre d'autres mots, d'autres façons de trouver ça normal et tout. C'est quelque chose qui est très douloureux. Et tu vois, ce truc de j'aurais voulu qu'on me le dise, c'est comme si j'aurais pu vivre les mêmes épreuves, mais au moins pas avec la destruction intérieure de penser que c'est moi, tu vois, de me perdre moi, en fait, dans le chemin.
Peut-être on peut terminer là-dessus, cette petite heure qui passe rapidement.
Ça marche.
Et voilà, donc...
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'être venu. Et ainsi se termine l'émission L'Entonnoir pour cette semaine. Nous vous disons à la semaine prochaine.
Et puis c'est pas facile.
Arrêtez de penser, tu n'as pas l'air que vide. Et finalement, le confinement est pour le bien du monde. C'est une vieille peau, mais quand c'est la sienne, on y tient. Pardi, y'a que ça qui compte. Dis la vie, t'es mal foutu, t'as l'air d'une fille perdue. T'es fagoté comme une sans foi ni loi, qui croit en Dieu, c'est quoi, et qui se fout de tout d'ailleurs, mais pas des coups au cœur. Le cœur, c'est une vieille peau, une peau de tambour, ta ratata. Ma sœur, c'est lui qui compte. Dis le cœur, t'es mal planqué, je m'en fous, je suis pas gaucher. Tu comptes les coups pour finir où, pam pam, dans un placard peinard, où y a pas de balles, pas les trains, mais pas d'argent. L'argent, c'est une vieille peau, une peau de chagrin qui fait ding ding. Tiens, tiens, on fait ses comptes. Dis l'argent, t'es rien nickel dans ton papier ficelle. Quand t'es pas là, nous on est là, copains. Sans argent, l'on n'est rien, mais rien du tout, c'est tout. T'as bien le bonjour de l'amour, l'amour. C'est une vieille peau, une peau de vison ou bien Tintin. L'amour, ça fait des comptes. Dis l'amour, t'es tout ou rien, mais quand t'es tout, c'est fou. Et quand t'es rien, alors t'es rien du tout. Faut mettre les bouts sur tout. Y'a qu'à s'en foutre, mon petit, car moi j'ai toute la vie. La vie, une foutue peau, mais comme c'est la mienne, moi j'y tiens. Pardi, pour moi ça compte. Dis la vie, sois bien foutu, et l'air d'une môme cossue. Mets ton beau poule, des fois qu'on tourne la boule à celui qui compte les coups et qui que quoi d'en coup. D'ailleurs nous on s'en fout, on vit.
On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver, au lieu de me noyer dans un verre.